Odelle Pierre, bonjour Margot.
Bonjour. L'Iran dit avoir le droit légitime de répondre à l'attaque israélienne. L'ONU s'inquiète et appelle à la retenue. Nous ferons le point sur les frappes israéliennes en Iran cette nuit. La stabilité au Moyen-Orient doit être la priorité, dit Londres.
Et puis, reportage en Irlande du Nord, où des habitants immigrés sont cloîtrés chez eux après trois nuits d'émeutes à cause de violences à caractère raciste.
Nous serons en direct de Nice avec notre spécialiste environnement, Véronique Robérotte. La conférence de l'ONU sur l'océan se termine ce soir avec quelques engagements encore à concrétiser.
Les femmes perdent 157 000 euros sur 20 ans à cause de l'agisme et du sexisme. On reviendra sur cette étude de la Fondation des femmes sur les inégalités salariales, toujours plus grandes avec l'âge.
L'État juif refuse d'être la victime d'un holocauste nucléaire commis par le régime iranien. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire de l'Iran. Nous avons ciblé la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir et d'agir maintenant.
Benjamin Netanyahou, cette nuit, dans un message vidéo, le Premier ministre israélien prévient « Cette opération durera autant de jours que nécessaire ». Son armée dit avoir des renseignements selon lesquels l'Iran s'approche, je cite, « du point de non-retour pour son programme nucléaire ». L'ONU appelle à la retenue maximale quand Téhéran estime avoir le droit légitime de répondre à l'attaque israélienne. Le point avec notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi.
Le guide suprême iranien a promis une riposte dure contre Israël après la vaste opération qui a été menée dans la nuit contre l'Iran. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est que le général Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution, mais aussi le chef d'état-major des forces armées, le général Mohammad Bagheri, ont été tués dans ces frappes, tout comme deux responsables du nucléaire iranien. L'armée israélienne a également frappé des sites nucléaires, le site d'enrichissement d'uranium et un autre site, Khondab, qui est dans le centre du pays, mais également des sites militaires tout au long de la frontière avec l'Irak, donc des positions plus proches d'Israël, des positions à partir desquelles apparemment avaient été lancés des missiles il y a quelques mois contre Israël, donc pour éviter justement une réaction iranienne. La question est de savoir si l'Iran dispose toujours des bases opérationnelles pour lancer des attaques, comme cela a été promis par les différents responsables iraniens. C'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui.
L'armée israélienne dit que ses pilotes sont encore en train d'attaquer en Iran ce matin. Par ailleurs, elle affirme que l'Iran a envoyé une centaine de drones en direction d'Israël qu'elle tente d'intercepter. Ce ne sont pas les premières frappes israéliennes en Iran depuis le 7 octobre 2023, l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Mais cette nuit, l'État hébreu a clairement passé un cap en termes d'ampleur et de cibles. Offensive massive, 200 avions de combat, une centaine de sites visés, les installations nucléaire iranienne, on le disait, et de hauts responsables militaires. Le cœur du régime iranien est donc attaqué. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, comment Israël justifie ce matin l'ouverture de ce nouveau front ?
Nous avons atteint un point de non-retour et nous n'avions pas le choix. Ce sont les mots ce matin choisis du chef d'état-major israélien Eyal Zamir qui affirme donc que l'attaque massive de la nuit est une réponse à la menace existentielle que fait peser l'Iran sur l'état hébreu. Depuis des semaines, américains et iraniens négocient. Les premiers exigent que Téhéran mette fin à l'enrichissement de l'uranium. Les seconds défendent leur droit souverain à développer leur programme nucléaire. Dans ce bras de fer, Israël assure ce matin que ses services secrets ont détecté des activités suspecte, laissant penser que l'Iran avait entamé la fabrication d'une bombe nucléaire. C'était donc une ligne rouge pour Israël qui prépare cette offensive depuis des années.
Et Thibault, est-ce qu'on peut parler du début d'une guerre ouverte ?
Israël a déclaré l'état d'urgence cette nuit à 3h en activant les alertes dans tout le pays. Les écoles sont fermées, les rassemblements interdits, la population invitée à rester à proximité des abris et les dirigeants de l'état hébreu sont dans des lieux sûrs. C'est de là que Benjamin Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure pour la deuxième fois depuis l'attaque.
Il n'y a pas de guerre gratuite. C'est pourquoi je vous demande de respecter à la lettre les directives du front intérieur. Vous allez peut-être devoir rester pour des périodes longues, plus longues que ce que nous avons connu, dans les abris.
La guerre ne fait donc que commencer, les bombardements israéliens continuent et la réplique iranienne est en cours avec une centaine de drones envoyés selon les autorités de l'État hébreu en direction de son territoire.
Thibault Lefèvre à Jérusalem. Donald Trump, lui, était au courant qu'Israël allait frapper l'Iran. Le président des États-Unis l'a dit cette nuit à Fox News. Quelques heures avant, il avait publiquement appelé Israël à ne pas passer à l'acte. Il réunira tout à l'heure son conseil de sécurité nationale. Nous suivrons la situation dans nos éditions. Prochain point dans le 8.45. Après trois nuits d'émeutes en Irlande du Nord, les rues étaient plus calmes hier soir à Ballymena, à une heure de Belfast. Un quartier avec une forte population immigrée a subi un déchaînement de violence. Le point de départ, c'est cette tentative de viol présumé sur une jeune fille. Deux adolescents ont été inculpés et si la police n'a rien dit sur leur origine, des médias affirment qu'il y avait un interprète roumain au tribunal. Depuis, le quartier subit violence et raciste. Résultat, des familles terrorisées se sont cachées dans leur grenier, leur penderie ou chez des amis. Désormais, elles envisagent de partir sur place. Clémence Pénard.
Route barrée, véhicules blindés, les policiers s'étaient préparés à affronter une quatrième nuit d'émeute, surtout dans le quartier populaire de Clonavon, épicentre des violences, où réside Nigel, 63 ans.
On est tous à bout, épuisés par cette situation, c'est horrible. Il y avait des tensions récurrentes ici depuis quelques années avec les ressortissants roumains, liés à un gang criminel bien précis. Depuis lundi, tous les Roumains se sont enfuis. Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble à un pogrom.
Et finalement, ce sont toutes les communautés immigrées qui ont été prises pour cible. Trois nuits de violence ont laissé des traces dans le quartier. Fenêtres cassées, portes enfoncées. Originaire des Philippines, Karen a préféré fuir.
C'était terrifiant. Ils ont lancé des pierres à nos fenêtres. Alors on s'est réfugié chez des amis. Il fallait qu'on trouve un endroit sûr pour notre petit garçon.
Et dans l'espoir que sa maison échappe aux attaques, elle est venue accrocher, comme beaucoup d'autres habitants du quartier, un drapeau britannique à sa porte. Ailleurs, en Irlande du Nord, d'autres troubles mineurs ont éclaté dans la ville de Portadown ainsi qu'à l'est de Belfast.
Le premier ministre indien Narendra Modi est à Ahmedabad, là où s'est écrasé hier un Boeing d'Air India. Un seul des 242 passagers a survécu. Une vingtaine d'autres personnes ont été tuées sur le site de la catastrophe, puisque des bâtiments ont aussi été percutés. Boeing sort d'une année noire après des failles, des dysfonctionnements, et ce drame n'arrange rien. Après le crash, l'action du constructeur américain a baissé hier de près de 5% à Wall Street. Alors certes, il s'agit du tout premier crash mortel sur ce modèle, un 787 Dreamliner, depuis sa mise sur le marché. Mais la confiance envers la compagnie s'effondre, Marie-Aimée Copleutre.
Utilisé par plus de 80 compagnies aériennes dans le monde, le modèle 787 Dreamliner avait pourtant déjà inquiété en 2020, après la découverte sur le fuselage de pièces non conformes de très mauvaise qualité. Ce crash mortel renforce donc la méfiance des investisseurs, analyse Xavier Tittleman, ancien aviateur spécialisé dans l'aéronautique.
C'est aujourd'hui très difficile de se faire une idée sur ce qui a pu se passer dans l'avion, mais il y avait une accumulation d'écarts sur le contrôle qualité, qui font qu'il y a un certain nombre de compagnies aériennes qui ont reçu des avions en retard, il y a eu des plaintes par la suite, auquel cas, bah, logiquement, il y a leur cours de bourse qui va dévisser.
Action qui baisse pour l'entreprise alors qu'elle ressort tout juste d'une année noire. Dette de 53 milliards d'euros à éponger, licenciement de 10% de ses effectifs, soit 17 000 salariés, du jamais vu depuis la création de Boeing en 1916. Le crash du 787 Dreamliner ne va rien améliorer et aura des conséquences sur le carnet de commandes du constructeur.
Ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec le 737 MAX, où finalement ils avaient dû pendant 3 ans remettre en cause l'avion, le redévelopper, ce qui fait que toutes les compagnies clientes avaient dû attendre des années avant d'être livrées, avec des compensations qui étaient absolument colossales. Et c'est peut-être ça aussi la crainte, c'est que l'avion soit incriminé et que les compagnies aériennes, elles préfèrent attendre.
Une catastrophe qui arrive 10 jours à peine avant l'ouverture du Salon international du Bourget. Boeing espérait faire de cet événement une vitrine pour regagner la confiance des investisseurs.
8h09 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Ce soir s'achève à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan.
Elle a rassemblé une 60aine de chefs d'État ou de gouvernement avec un président français, Emmanuel Macron, très présent. Il entendait faire de ce sommet un moment fondateur pour la gouvernance de l'océan. Petite phrase à nuancer d'emblée, puisque ça n'était pas une enceinte formelle de négociation. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Nice. Il y a eu des engagements politiques, Véronique, mais il faut maintenant les transformer en actes.
Alors c'est vrai, ces derniers mois, Emmanuel Macron avait maintes fois formulé le souhait que le sommet de Nice coïncide avec l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer grâce à l'impulsion française. Il fallait pour cela obtenir ici 60 ratifications, condition nécessaire pour l'entrée en vigueur de ce traité qui est très important. Il permettrait de protéger 2/3 des océans, de créer notamment des aires marines protégées dans les eaux internationales. 60, le compte n'y est pas tout à fait, ce n'est qu'une question de semaines. Au plus tard, explique la France, beaucoup de pays se sont engagés à ratifier le traité, mais plus tard, comme si c'était déjà fait quand même. La France prévoit l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer en janvier 2026 et suivra, si tout va bien, l'organisation de la première COP sur les océans fin de l'année prochaine, 2026, enceinte décisionnelle cette fois-ci.
Et Véronique, il y a eu aussi des prises de position fortes autour de la réduction de la pollution plastique.
Oui, sur la pollution plastique, poison des mers, 96 pays se sont prononcés sur la nécessité de prendre des mesures de réduction du plastique dès l'étape de sa production, dès la source. Une position qui sera défendue cette fois-ci en août à Genève, où l'on négociera exclusivement sur le sujet, avec cet espoir eh bien, que la coalition de Nice débloque des négociations embourbées. Autre danger à venir pour les océans, l'exploitation des grands fonds marins. Une coalition de 38 pays s'est prononcée pour un moratoire, en rappelant la nécessité d'explorer d'abord les écosystèmes abyssaux avant d'envisager une quelconque exploitation de leurs ressources, de leurs minerais. Ça n'implique pas les États-Unis qui ont la première façade maritime au monde et qui prévoient, eux, d'aller exploiter.
Véronique Rebérotte à Nice avec Jérémy Tuile. Les Polynésiens dénoncent des conséquences graves sur l'environnement et la santé. 30 ans jour pour jour après l'annonce par Jacques Chirac de la reprise des essais nucléaires en Polynésie française. La population, une fois encore, n'avait pas été consultée. Un traumatisme très vif sur place, mais plutôt oublié dans l'Hexagone. Le reportage de Cécile de Kervas-Doué.
Évidemment, ce qui se passe ici en Polynésie n'intéresse pas la métropole. La Polynésie, c'est toujours la danseuse.
Qui sait aujourd'hui que pour avoir la bombe atomique, la France a fait exploser en Polynésie française 193 bombes, parfois 120 fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima, dont 46 en plein air, à moins de 500 km d'archipel peuplé. C'est la question que pose Père Maxime, le vice-président de l'association 193, qui en Polynésie accompagne les victimes des essais nucléaires.
Ce qui est très visible aujourd'hui, c'est surtout les conséquences sanitaires, par le nombre de cancers, directement par contamination ou bien indirectement par le changement de la façon de se nourrir.
En 2006, la France a admis qu'elle avait menti en vantant des essais propres durant ces 30 années. Mais cette reconnaissance est loin d'être acquise, explique Moetai Brotherson, le président indépendantiste de la Polynésie.
Aujourd'hui, on recommence à entendre du côté du CEA, du côté de certains scientifiques, la même musique qu'on nous a servie pendant 30 ans, à savoir que les essais nucléaires, c'était pas dangereux. Donc cette tentation de réécriture de l'histoire, elle est toujours là, elle est toujours présente.
D'autant qu'aujourd'hui encore, 60% des demandes d'indemnisation des Polynésiens sont rejetées par la France.
Cécile de Kervas-Doué qui signe le grand reportage de la rédaction ce soir à 17h, Polynésie, sortir du traumatisme nucléaire. 157 000 euros en 20 ans, c'est le manque à gagner pour les femmes salariées par rapport aux hommes. La Fondation des femmes a publié hier une étude. En compilant les données de l'INSEE, elle montre que les écarts salariaux s'amplifient drastiquement passé 40 ans, sous l'effet conjugué de l'âgisme et du sexisme, Julie Paco.
À 61 ans, Fabienne termine une carrière de comptable dans une entreprise du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Embauchée à 23 ans, elle a subi tout au long de sa vie professionnelle des discriminations liées à son genre et à son âge.
Moins de progression quand on est jeune, parce qu'on ne sait jamais si on fait des enfants, on aura moins de temps. Et puis quand on est âgé, je dirais après 50 ans, ça recommence un peu cet a priori sur les femmes, plus fatiguées, plus malades, peut-être à s'occuper de ses petits-enfants. On va vous dire que, ouais, mais est-ce que s'il y a des changements, vous allez oser vous adapter ? Ce sont des stéréotypes. Un homme, on ne doit pas lui demander ça. Hein.
Et si Fabienne a aujourd'hui accepté une rupture conventionnelle proposée par son entreprise, elle souhaite rapidement retrouver un emploi.
Je vis seule, hein, donc pour pouvoir continuer toujours à vivre seule, il faut que j'y aille jusqu'à 66 ans. J'aurai mes années, mais pour avoir un peu de bonus, quoi. J'ai mon papa qui est donc en EHPAD. Donc il faut toujours travailler pour pouvoir aider après ses enfants, ses parents.
Une trajectoire qui illustre comment l'âgisme et le sexisme subis par les femmes se conjuguent et aboutissent à leur appauvrissement. Entre 40 et 60 ans, une femme salariée perd en moyenne chaque année plus de 7800 euros par rapport à un homme du même âge, estime la Fondation des femmes. Floriane Volt y dirige l'Observatoire de l'émancipation économique.
Le poids des stéréotypes crée des manques d'opportunités pour les femmes. Et quand elles atteignent 45 ans, elles sont vraiment frappées par l'âgisme, ce qui fait qu'on investit moins sur elles, elles ont moins de formation, elles ont beaucoup plus de mal à retrouver du travail. Finalement, dans le monde économique, les femmes de 45-65 ans, elles disparaissent progressivement.
Et conséquence de ce décrochage économique, aujourd'hui les trois quarts des retraités vivant avec moins de 1000 euros par mois sont des femmes.
Julie Paco, les épreuves du baccalauréat commencent avec le français aujourd'hui pour les lycéens de première. Place lundi à la philosophie, souvent redoutée. Météo France prévoit des orages cet après-midi du Pas-de-Calais à la Haute-Garonne. 17 départements seront placés en vigilance orange avec des températures toujours très chaudes. Jusqu'à 30 degrés à Lille, 32 à Paris et Bordeaux, 34 à Lyon. 8h15, suite des matins, Guillaume Erner.
Bien, dans quelques secondes, on va évoquer la vie d'une femme de 52 ans. Ça s'est déroulé le 13 juin de 1925. C'était il y a 100 ans, le centenaire de Mrs. Dalloway, le roman de Virginia Woolf. On en parle en compagnie de Nathalie Azoulay, qui propose une nouvelle traduction chez POL, et l'angliciste Marc Poré. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez nos camarades François Saltiel, qui parlera de la revue semestrielle Estrange, qui explore la mémoire d'Internet et dans le regard culturel. Lucille Como parlera du film The Life of Chuck de Mike Flanagan, une adaptation d'une nouvelle de Stephen King sur grand écran. Et puis un billet politique avec vous, Jean-Lémarie, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Et une question incongrue ce matin.
La loi est-elle faite pour être appliquée ? Trop de retard dans l'application des lois. Le Sénat interpelle le gouvernement.
Bon, vous allez nous expliquer ça dans quelques secondes.
Chaque vendredi dans votre book club, une personnalité nous ouvre les portes de sa bibliothèque.
Marie Richeux.
Aujourd'hui, c'est l'astrophysicien et conteur d'univers David Elbaz qui nous guide à travers les ouvrages qui nourrissent son regard sur le cosmos et l'humanité. De la nouvelle « L'autre » de Borges, en passant par le phénomène humain de Teilhard de Chardin ou encore « La promesse de l'aube » de Romain Gary, on l'écoute nous parler de ses lectures.
Le book club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Comment capter le chaos du monde sans jamais cesser d'en chercher la beauté? Pour sa dernière exposition avant fermeture, le Centre Pompidou donne carte blanche à Wolfgang Tillmans. L'artiste et photographe allemand investit et transforme l'ancienne bibliothèque publique d'information pour une exposition qui explore plus de 35 ans de pratiques artistiques. Wolfgang Tillmans, rien ne nous y préparait, tout nous y préparait. Du 13 juin au 22 septembre 2025, au Centre Pompidou à Paris. Un partenariat France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Le billet politique, Jean-Lémarie, la loi est-elle faite pour être appliquée ?
Appliquer la loi ? Quelle idée ! On la vote, on la promulgue, et ensuite, ça dépend. Une loi peut rester dans un tiroir. Ça arrive, et même de plus en plus souvent. Vous êtes surpris ? Vous n'avez rien vu encore. Le Sénat vient de s'alarmer. Comme chaque année, il a dressé le bilan de la dernière session parlementaire, la session 2023-2024. Ce qu'il appelle le service après-vote. Accrochez-vous. Pour qu'une loi entre en vigueur, souvent, vous le savez, il faut des mesures d'application. Le gouvernement doit publier des décrets pour rendre le texte opérationnel. L'an dernier, 30 lois étaient concernées. Le bilan, 4 sur 30. Seulement 4 lois entièrement applicables.
Et les autres ?
Les autres, c'est la loterie. Le Sénat nous donne quelques exemples. Un bilan au 31 mars dernier. La loi Valtou pour améliorer l'accès aux soins, c'est la question notamment des déserts médicaux, appliquée à 42%. La loi sur le bien vieillir et l'autonomie, appliquée à 36%. La loi visant à prévenir les ingérences étrangères, pas appliquée du tout. Elles sont neuf dans ce cas, totalement bloquées. Alors je vous rassure quand même, normalement les textes finissent par entrer en vigueur, mais le processus est de plus en plus lent et de plus en plus chaotique. La sénatrice Sylvie Vermeillet, qui a piloté ce travail, donne encore deux chiffres. Le taux moyen d'application des lois l'an dernier, 59%. En recul de 5 points. Et le délai moyen pour qu'elles entrent en vigueur, 7 mois, c'est-à-dire 2 mois de plus que l'année d'avant. J'arrête là avec les statistiques, mais vous avez compris l'essentiel. La situation se dégrade. Entre le Parlement et le terrain, le gouffre s'élargit.
Mais comment est-ce possible ?
Bon, dans les couloirs des ministères, il y a souvent du retard à l'allumage et ça, c'est pas nouveau. Mais pour le Sénat, la pagaille politique a aggravé la situation. La dissolution, la campagne des législatives, l'attente d'un nouveau gouvernement, et puis la censure au mois de décembre et à nouveau l'attente d'un gouvernement. Les ministres ont passé une bonne partie de leur temps à gérer les affaires courantes et rien d'autre. Le résultat est là, l'État fonctionne moins bien. Avec des conséquences. Prenez la santé. On l'évoquait encore cette semaine à propos de la santé mentale des jeunes. Depuis 3 ans, de remaniement en remaniement, savez-vous combien de ministres de la santé nous avons eu ? 7. 7 ministres de la santé. Comment voulez-vous que les lois et leur application soient bien suivies ? Et ce décalage n'a pas seulement des conséquences sur le terrain. Il dégrade encore l'image de la politique. Entre les annonces et la réalité, la politique s'évapore, comme si une seule chose avait de l'importance. Les annonces, les promesses, le vote, et pas la suite, c'est désolant.
Ça désole surtout les parlementaires.
Beaucoup s'interrogent, dans ces conditions, à quoi sert leur travail. Surtout que les propositions de loi, celles qui sont portées par les députés et les sénateurs, sont encore moins bien traitées que les projets de loi défendus, eux, par le gouvernement. L'exécutif a conscience de ses failles, il le dit. Avant-hier, le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, était devant les sénateurs. Un peu navré et un peu encourageant tout de même. Il a annoncé une petite amélioration. Le taux d'application des lois votées entre 2023 et 2024 augmente. Il vient de passer à 70%. Ne crions pas victoire. Il y a 3 ans déjà, le gouvernement avait tenté de s'attaquer au problème. Comment ? Avec une circulaire. Une circulaire pour accélérer l'application des lois. Une circulaire, évidemment, mal appliquée.
Merci beaucoup, Jean-Lémarie, pour ce billet politique. On va revenir à la littérature à Mrs. Dalloway.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'était donc il y a 100 ans, un 13 juin, une femme se promenait dans Londres, Mrs. Dalloway, pour y faire ses courses. C'est un roman qui a marqué l'histoire. On en parle en compagnie de l'angliciste Marc Poré et de l'écrivaine Nathalie Azoulay. Vous proposez une nouvelle traduction de ce roman, Nathalie Azoulay. Cela peut paraître étrange de parler de ce roman alors qu'il y a des frappes israéliennes sur l'Iran, même s'il y a chaque jour, hélas, des frappes quelque part dans le monde. Mais enfin, Nathalie Azoulay, ce roman, lui aussi, évoque la guerre.
Oui, bien sûr. Il commence sur le souvenir de la guerre et sur le désastre de la guerre et sur la terreur de la guerre. Et Mrs. Dalloway a été très, très, très affectée par la guerre à titre personnel, parce qu'elle a même eu une maladie qui a failli la faire mourir, qui était liée à la guerre, la grippe espagnole. Et donc, il y a un contrepoint qui est offert au désastre de la guerre dans le roman, qui est cette soirée qui a l'air toute futile, mais qui, en fait, est sa façon à elle de renaître à la vie et d'entonner un hymne à la vie qui va courir tout au long du roman et qui va être tout le temps, en fait, je dirais, accompagnée par une musique plus sombre, qui est celle de l'autre personnage du roman qui s'appelle Septimus, et qui, lui, est un survivant de la guerre, un ancien soldat, mais qui a été complètement détraqué par la guerre et qui va finir par se suicider. Donc, on a ce contrepoint entre la vie et la mort qui trame vraiment la chair de ce roman, et elle avait envie justement de travailler cette symétrie. Mais c'est vrai que c'est la vie qui triomphe, et Mrs. Dalloway, elle, à un moment dans sa soirée, une pensée très sombre, mais c'est comme si Septimus était mort pour elle et qu'elle pouvait continuer sa vie.
De toute façon, Marc Poré, beaucoup de grands romans de cette époque-là, alors si on prend l'époque antérieure, c'est la guerre de 1870 qui les a marqués, Zola, Maupassant, pour les Anglais, pour l'époque postérieure, c'est une autre guerre. Et il y a toujours l'ombre des grands conflits sur ces romans, même, je parle des romans qui, bien entendu, n'évoque pas la guerre en premier lieu.
Oui, c'est le séisme de la guerre qui se répercute. On sent encore les secousses, c'est-à-dire que nous sommes dans l'après-guerre, 1918-1923, et de toute façon, Virginia Woolf avait écrit qu'en 1910, c'est-à-dire lors de l'avènement de George V sur le trône de l'Angleterre, quelque chose de fondamental avait changé dans le caractère humain, à commencer par les relations humaine, c'est-à-dire les relations entre les maîtres, les serviteurs, les hommes, les femmes, etc., etc. Et donc, la guerre n'est qu'une des répliques de ce long séisme qui fait que tout se bouleverse, tout se transforme, le sol se dérobe sous nos pas, sous les pas de Clarissa. D'où l'angoisse profonde qui nourrit, qui sous-tend ce roman, mais parfaitement contrebalancée, comme vous disiez, Nathalie, par cette allégresse, cette effervescence, ce quelque chose de joyeux. Mrs. Dalloway, c'est un peu le champagne d'un côté, hein, avec les bulles, avec tout ce qui pétille. Et puis de l'autre, il y a une autre séduction. Comme la vie allègre peut avoir une séduction, mais il y a une autre séduction plus profonde, plus sombre, plus sourde, noire, noire comme l'encre, hein, de l'écriture. Et c'est ce mélange, ce cocktail, ce dosage parfaitement maîtrisé qui triomphe dans chacune des pages de ce roman.
D'ailleurs, il y a, alors là, je ne m'adresse plus à la traductrice, mais à l'écrivaine que vous êtes, Nathalie Azoulay, dans Toutes les vies de Théo, vous abordiez la guerre, cette guerre que nous sommes en train de vivre, cette guerre qui a débuté le 7 octobre 2023, et on retrouve l'un des thèmes de Mrs. Dalloway, qui est un thème universel dans la littérature, les histoires d'amour qui finissent mal, ou l'amour malheureux, ou la déliaison amoureuse, l'amour qui fait mal, et puis les traces de la guerre, la manière dont la guerre déchire les couples, ça c'est dans Toutes les vies de Théo.
Oui, alors là, dans Mrs. Dalloway, il n'y a pas de déliaison. C'est-à-dire qu'il y a une déliaison par le souvenir, dans la mesure où Clarissa se souvient d'un amour de jeunesse qui revient pour sa soirée, qui est Peter Walsh, avec lequel elle a eu une relation assez intense et platonique, et avec lequel elle aurait pu se marier. Sauf que Peter n'offrait pas les garanties sociales auxquelles elle aspirait, parce que Clarissa Dalloway est une bourgeoise qui veut vivre dans le monde de la haute bourgeoisie parlementaire anglaise. Et donc, et Virginia Woolf est assez fascinée aussi par ça, hein, il faut le dire. Donc, Peter n'offrait pas les garanties, il y avait entre eux une complicité intellectuelle très forte. Il voulait devenir écrivain, il n'est pas devenu écrivain. Et Clarissa, pour autant, le retrouve avec une forme de mépris, c'est-à-dire qu'elle voit bien qu'il a raté sa vie, qu'elle a cette position dans la société, qu'il vient à sa soirée. Il a un regard un peu ironique sur le couple qu'elle forme avec Richard. Mais Clarissa et Richard sont un vrai couple, c'est-à-dire que ça marche bien entre eux, il n'y a pas de déliaison.
Justement, Marc Porry, il y a deux constantes chez Woolf. D'abord, son rapport à la sensualité. Elle trouve que Ulysse est... Donc, le Ulysse de Joyce est dégueulasse, que c'est vraiment pas un roman recommandable. Alors d'ailleurs, c'est assez... C'est assez étrange, parce qu'elle dit à la fois c'est un génie et...
C'est parfaitement ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, elle a un mot très dur pour qualifier l'Ulysse de Joyce, cette espèce de sommet de la littérature moderniste. Elle dit c'est un cloaque, c'est un égout à ciel ouvert. Il y a quelque chose de malsain, hein, de dégoûtant, comme vous disiez. Et puis en même temps, c'est la contradiction... ou bien c'est la tension, hein, féconde, qui fait qu'elle est fascinée par la formule, entre guillemets, que Joyce a trouvée. C'est-à-dire cette façon de faire transiter toutes les impressions, les sensations d'une journée par le filtre, par l'intermédiaire, le truchement d'un personnage. Et ça va la marquer, mais de manière très profonde, si bien que son rapport est un rapport ambivalent d'amour et de haine. Et on rêve, nous autres lecteurs, nous avons ce pouvoir, ce privilège, d'imaginer le couple que formerait Bloom d'un côté et Clarissa de l'autre. Un couple totalement improbable. Mais en même temps, il y a des croisements, il y a des circulations, il y a des réponses.
Donc alors, il y a ce rapport à la chair. Nathalie Azoulay. Alors,
je voudrais juste ajouter quelque chose sur le couple d'Alloway, c'est-à-dire que je dis qu'ils marchent bien socialement et familialement, ils ont une enfant, etc. Mais en fait, il y a un secret dans ce livre qui est que Clarissa a eu une émotion sexuelle dans sa vie et ne l'a plus jamais eue. C'était avec son amie Sally, quand elle était jeune. Et le roman est scandé par l'échec sexuel de son couple avec son mari.
Vous voyez, les histoires d'amour finissent mal, toujours.
Compliqué.
Vous restez optimiste, mais vous avez tort. Mais par contre, ce qui est important aussi, Nathalie Azoulay, c'est la stratification sociale.
Oui,
c'est-à-dire... Et alors ça aussi, c'est un grand thème de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Oui, bien sûr. En fait, Woolf, c'est une écrivaine proustienne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dedans et dehors, à la fois fascinée par le jeu social et les conventions et l'envie d'en être. Il y a une scène très importante dans le roman où elle n'est pas invitée à un certain déjeuner et en fait, elle en est mortifiée. Donc, Clarissa. Et donc, Virginia Woolf pose là-dessus un regard ambivalent aussi, c'est-à-dire à la fois de fascination et de satire.
Marc Porris, sur la stratification sociale, alors là aussi c'est un rapport ambigu, parce qu'il y a d'un côté donc cette reconnaissance, cette contribution, puisque c'est une femme qui ne se contente pas de reconnaître la réalité de la stratification sociale, mais souhaite y participer, on est membre à part entière, et puis il y a aussi ces autres personnages qui sont donc une manière de sortir de cette classe sociale.
Oui, oui, la stratification est implacable en Angleterre. Tous les romans anglais ne parlent que de ça, ils ne parlent que de classe, ils ne parlent que de ce feuilletage.
Chez Lawrence, dans L'amant de Lady Chatterley,
bien sûr, où le contraste est plus
chez Thomas Hardy.
Tranché. Oui, il est partout. Et effectivement, la grande bourgeoisie n'est pas l'aristocratie. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose au-dessus de soi. Et une des constantes chez Woolf, comme chez beaucoup d'écrivains, chez Thackeray et d'autres, c'est le snobisme. Cette façon de regarder, en anglais on dit one's betters, c'est-à-dire les supérieurs, ceux qui sont au-dessus de vous. Cette façon de les regarder avec envie, fascination, respect, un respect qui est totalement indu, hein, et c'est indigne d'éprouver ce respect. Et Clarissa s'en veut profondément. Elle dit pourquoi est-ce que je suis engluée dans cette espèce de contrainte sociale? Et en même temps, voilà, elle est prisonnière, elle rêve d'y échapper. Y échappe-t-elle? C'est un point d'interrogation.
On va écouter la voix de Virginia Woolf, enregistrée par la BBC. C'était en 1937. Et c'est évidemment en anglais. Je vais faire la traduction quelques instants après.
There it seems strangely much as human beings live, ranging hither and thither, falling in love, meeting together. It is true they are much less bound by ceremony and convention than we are. Royal words meet with commoners. English words marry French words, German words. Indian words, Negro words, if they have a fancy. Thus, to lay down any laws for such irreclaimable vagabonds is worse than useless. A few trifling rules of grammar and spelling is all the constraint we can put on them.
De manière diverse et étrange, à l'instar des êtres humains, les mots vivent en vagabondant, en tombant amoureux et en s'accouplant. Il est vrai qu'ils sont bien moins liés que nous par les cérémonies et les conventions. Les mots royaux s'accordent avec les mots du commun. Les mots anglais épousent les mots français, allemands, indiens, noirs s'ils ont une préférence. Établir des lois pour ces vagabonds irrécupérables est donc plus qu'inutiles. Quelques règles insignifiantes de grammaire et d'orthographe suffisent à les contraindre. Tout ce que nous pouvons dire d'eux en les observant par-dessus le bord de cette caverne profonde, sombre et faiblement éclairée où ils vivent l'esprit, c'est qu'ils semblent aimer que l'on réfléchisse et ressente avant de les utiliser, mais que l'on réfléchisse et ressente non pas à leur sujet, mais à quelque chose de différent. Et là, je vous propose, Nathalie Azoulay, de nous dire, puisque vous avez travaillé sur ce texte, et vous en avez vu les détails, les coutures, les soubassements, j'imagine que c'est ça, traduire, puisque c'est ce que vous nous livrez, cette nouvelle traduction de Mrs. Dalloway, le rapport que Virginia Woolf entretient avec la langue et les mots.
Oui, c'est vrai que ça a été l'occasion pour moi de la lire très très profondément. Alors, il y avait avant ma traduction plusieurs traductions, dont de très bonnes. Mais c'est vrai que j'ai eu envie de restituer quelque chose d'autre, de plus sensoriel, de plus musical, et de rendre hommage à ce mixage très subtil qu'elle effectue dans ce roman, où elle mêle les bruits de la vie intérieure, les bruits de la ville, qui sont très très nombreux et très forts, et finalement de rendre cette grâce qu'elle a aussi donner à ce poème En Marche, parce que c'est un roman qui raconte une journée, mais qui se pose sans arrêt sur des descriptions très métaphoriques d'eau, de couleurs, de sons. Et il y a des stases comme ça poétiques qui scandent le roman, qui sont très difficiles à traduire, donc je me suis un peu arraché les cheveux. Mais c'était pour moi important d'arbitrer entre la fidélité au sens et l'oreille, en fait. C'est-à-dire que j'ai quand même traduit à l'oreille et je suis heureuse d'avoir entendu, réentendu la voix de Woolf, parce qu'en fait, ça m'a accompagnée dans ma traduction. J'avais envie de ce phrasé bourgeois anglais qui est à la fois vif,
pas très articulé, c'est-à-dire c'est un roman sans subordination par exemple. Il est sans arrêt écrit dans la succession des faits, des événements. La conjonction la plus fréquente du roman, c'est « for », c'est-à-dire un quart qui est à peine esquissé et qui ne raconte que la série des choses qui s'enchaînent en fait, et pas du tout la causalité. Il y a très peu de causalité.
Mais alors, a priori, c'est une langue, bon, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, une langue toujours très difficile, l'anglais de cette époque. Je pense à Thackeray, à Hardy, ce sont des écrivains difficiles à comprendre. Virginia Woolf aussi, Marc Porré.
Le paradoxe, c'est que elle voulait, par exemple, pour revenir d'un mot à Ulysse, à l'Ulysse de Joyce, elle prétendait que l'Ulysse de Joyce était, entravé par tout l'appareil mythologique, les références à Homère, l'Odyssée. Et donc, son projet à elle était de plutôt proposer quelque chose de plus moderne, entre guillemets, qui se dispense de la mythologie, qui se dispense de ce détour par le temps ancien, l'Antiquité. Et donc, elle rêve d'une langue qui soit claire, Clarissa, après tout, hein, l'illustre, mais aussi la claire. Cette langue claire ne l'est pas tout à fait, évidemment, mais elle n'est jamais confuse. Elle est toujours tranchée, et puis elle est ludique. Il y a quelque chose chez Virginia Woolf d'absolument ludique. Il ne faut pas oublier que Virginia Woolf était quelqu'un qui avait le sens de l'humour, pas seulement l'ironie, mais aussi l'humour, et donc elle se plaisait à jouer avec les mots. Et c'est une jubilation, enfin, lire Woolf en général et Mrs. Dalloway en particulier, c'est rebondir comme un galet qui ricoche sur l'eau, c'est glisser d'un mot à l'autre. Et chacun des mots qu'elle emploie est labile lui-même, c'est-à-dire à la fois fuyant, pas tout à fait lisse. On peut pas s'en emparer, c'est comme du savon. Vous avez essayé d'attraper du savon avec les mains mouillées, on n'y arrive pas. Eh bien, les mots, l'écriture de Woolf, c'est un peu ça. C'est un flux tendu, mais quand même ponctué par des syncopes, par des pauses, des mini-pauses, qui sont un peu l'image de la mort, l'image rapportée de la mort, qui s'invite à la fête. Hein, c'est une fête à laquelle la mort s'invite. Et la langue de Woolf, elle fait ça.
Second extrait de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, et c'est Delphine Cognard qui dit, et c'est toujours votre traduction, Nathalie Azoulay.
Clarissa escortait maintenant son premier ministre à travers la pièce. Elle se pavanait, rayonnait sous sa couronne de cheveux gris. Elle portait des boucles d'oreilles et une robe de sirène d'un vert argent. À se prélasser sur les vagues, tressait ses nattes, avec ce don qu'elle avait toujours, être, exister. Elle avait tout cela en elle quand elle passait, tournait, accrochait son étole à la robe d'une autre, l'en détachait, riait, avec la plus parfaite aisance et l'air d'une créature qui flottait dans son élément. Mais l'âge l'avait effleurée. Telle une sirène, elle retenait dans son miroir les rayons d'un soleil couchant dans le ciel pur, juste au-dessus des vagues. Et ce souffle tendre, sa rigueur, sa pruderie, sa raideur, c'était tout amolli à présent, et elle avait, quand elle dit au revoir au gros homme ficelé de dentelle dorée qui se démenait pour paraître important, puis « bonne chance », une indicible gravité, une délicieuse cordialité, comme si elle voulait du bien au monde entier avant de, sur l'ultime bord du dernier rivage, tirer sa révérence. C'est ce qu'elle lui inspirait, mais non, il n'était pas amoureux.
La page 336, Nathalie Azoulay.
C'est une belle page, en fait. On est dans la tête de Peter Walsh qui retrouve celle qu'il aime, en fait, toujours, et contre laquelle il se défend, en fait, puisqu'elle est inaccessible. Et donc, il la regarde faire à la fois dans cette mondanité pétillante qui est la sienne et qui le ravit. Hein. Il y a beaucoup de ravissement dans l'esprit de Peter et même dans celui de Clarissa. Et en même temps, on voit très bien dans ce passage qu'il y a des images et des métaphores qui sont très bizarres.
Moi, je me souviens d'avoir souffert sur cette page, notamment à l'occasion de ces nattes qui sont évoquées, de cette sirène qui est évoquée, de ce miroir. Et en fait...
Pourquoi avez-vous souffert ?
Mais parce que c'était pas facile à traduire, je comprenais pas très bien l'image, en fait. Et donc, je me suis rendu compte souvent que dans ce roman, il y a cette volonté moderniste d'inventer des images qui ne sont pas des images conventionnelles, qui sont des images un peu saugrenues parfois, très insolites. Et vous savez, elle était talonnée, Virginia, par sa sœur Vanessa, qui était peintre, et qui, elle, était, très post-impressionniste. Et il y avait cette révolution picturale qui était très forte. Et pour Virginia Woolf, il y avait cette ambition d'inventer des images, y compris visuelles. Par exemple, le leitmotiv de ce roman, ce sont les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air, qui est le carillon de Big Ben, qui revient, je ne sais plus combien de fois dans le roman. Donc, il y a cette volonté de visualiser le son.
Mais alors, c'est aussi la poésie du roman, parce que, alors, je lis par exemple la lumière pâle de cette présence immortelle. Enfin, ce type de métaphore, c'est aussi ce qui constitue sa langue particulière, cette langue poétique.
Oui, bien sûr, mais à la fois il y a du poétique qui est facile à concevoir et il y a du poétique un peu plus bizarre. Et là, par exemple, quand vous dites « quand je lis telle une sirène, elle retenait dans son miroir les rayons d'un soleil couchant », je ne savais pas que les sirènes avaient un miroir, par exemple. Donc c'est un tout petit peu étrange.
Marc Porré.
Oui, c'est le lyrisme amoureux, hein. C'est quelque chose qui renoue avec une longue tradition de construction fantasmatique de la femme aimée. Là, c'est une construction dans tous les sens du terme, hein. Quelque chose qui aboutit à ce point d'orgue du roman où elle est saisie, où Clarissa est saisie dans sa majesté, dans sa beauté avec un B majuscule. Et en même temps, à la fin, il y a toujours cette espèce de pirouette finale. Mais non, il n'était pas amoureux. Mais bien sûr que si, hein. Mais il se le refuse à lui-même.
La postérité de Virginia Woolf. Alors, on en a parlé, Nathalie Azoulay. Je fais un rapprochement entre ses romans et les vôtres. Qui verriez-vous d'autres? Quels sont les prolongements, justement, de cette narration particulière? Puisque lorsqu'un roman fait époque, il en inspire d'autres.
Alors, le monologue intérieur, encore une fois, il n'y a pas qu'elle qui l'a utilisé, mais disons que il y a une forme de banalisation aujourd'hui. On sait lire du monologue intérieur. À son époque, c'était encore très nouveau. Et ça, on en use beaucoup. Les flux sensoriels aussi. Ces descriptions qui sont à la fois... Elle réagissait contre la description édouardienne, qui était très réaliste, très naturaliste. Et elle propose des traductions qui sont... des descriptions qui sont souvent très poétiques et, comme je viens de le dire, parfois étranges. Et donc, de tout ça, on a hérité. Alors, la postérité est grande, à la fois parce qu'elle incarne ce féminisme, mais aussi parce qu'elle a incarné une rupture littéraire. Alors, je sais pas, très près de nous, il y a eu ce roman de Michael Cunningham qui s'appelait The Hours, qui a été très très renommé, qui a donné lieu à une adaptation cinéma aussi pleine de succès. Je sais qu'à la rentrée, là, il y a un film qui va sortir qui s'appelle Dalloway, où c'est l'histoire d'un metteur en scène français qui s'appelle Gozan, et c'est l'histoire d'une écrivaine aux prises avec l'IA. Donc, vous voyez, c'est encore un ricochet de cette postérité.
Marc Porré, la postérité ?
Ah, la postérité, elle est deleuzienne pour moi. Enfin, je veux dire que le Deleuze des rhizomes, le Deleuze donc, critique...
Philosophe, Gilles Deleuze.
Philosophe, critique cinématographique, avec sa magistrale étude du cinéma, image-temps, image-mouvement, je crois. Eh bien, peut-être que l'avenir de Virginia Woolf, c'est effectivement l'aventure cinématographique qui se poursuit.
Merci à tous les deux. Merci Nathalie Azoulay, Mrs. Dalloway, donc chez POL, et Toutes les vides de Théo, qui est également chez POL. Merci beaucoup Marc Porré pour ces...
Je voulais en profiter pour dire qu'il y a un colloque d'Halloway qui aura lieu le 19 juin prochain au Collège franco-britannique de la Cité universitaire auquel je participerai.
Et ben
qui
voilà.
Est gratuit et ouvert à tous.
Et ben voilà, vous l'avez dit. Et à suivre le journal qui sera, à mon avis, moins littéraire et moins réjouissant. Je vois la mine d'Anne-Laure Chouin et puis également mes camarades Lucille Como et François Saltiel. 8h44 sur France Culture.
Découvrez 12 créations sonores originales.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
12 variations de moins de 10 minutes sur le dialogue amoureux, conçu et mixé en son spatialisé par des étudiants en école de son. À écouter au casque pour tendre l'oreille aux créateurs de demain. 11 immersives, 12 variations sur le dialogue amoureux. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le souffle de la pensée. Ce vendredi, la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant.
Géraldine Mosna-Savoie.
Lorsque Kant publie la critique de la faculté de juger, il a 66 ans et s'est déjà attaqué à la connaissance et à la morale. La beauté sera le centre de cette nouvelle critique. Véritable déclic pour le philosophe Michael Fossel, il vient nous révéler la portée de ce classique à la réputation difficile.
Le souffle de la pensée, chaque vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bon bah ça y est, hein, il est 8h45. Votre journal, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel de ce journal sera consacré à ces frappes israéliennes sur l'Iran cette nuit. Nouvelle étape dans ce qui ressemble à un embrasement total du Proche-Orient. Et puis le dossier de ce 8h45 nous emmènera à Auxerre, où des fouilles préventives ont mis à jour une vaste demeure antique. Israël est donc passé à l'acte cette nuit après avoir menacé de frapper l'Iran en cas de poursuite de son programme nucléaire. L'armée israélienne a visé Téhéran et le centre nucléaire de Natanz dans la province d'Ispahan où se trouvent plusieurs installations nucléaires. Téhéran où seraient mortes plusieurs personnes dont des civils, 6 scientifiques spécialisés dans le nucléaire ainsi que le chef des gardiens de la révolution, le bras armé idéologique du régime, Hossein Salami. Désormais, tout le monde craint une guerre ouverte entre ces deux poids lourds de la région et la plupart des diplomaties appellent à une désescalade urgente. La Jordanie comme l'Irak ont fermé leur espace aérien. Israël dit être en train de repousser une attaque iranienne de drones. Côté américain, on fait mine de croire que des négociations sur le nucléaire sont toujours possibles. La Maison-Blanche désapprouve ces frappes dont elle dit avoir été prévenue à l'avance. Cette nuit, Donald Trump s'est exprimé sur le sujet sur Fox News. Sébastien Power.
Trump dit à la chaîne conservatrice Fox News ce que son secrétaire d'État écrit dans un communiqué, qu'il a été prévenu à l'avance par Israël, que l'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et qu'il espère toujours des négociations avec Téhéran après ces frappes israéliennes. La prochaine étape de ces discussions sur le nucléaire iranien est prévue dimanche au Sultanat d'Oman. Dans les 5 lignes du texte du Département d'État, le chef de la diplomatie américaine parle des mesures unilatérales d'Israël contre Téhéran. Il assure que l'Amérique a bien été informée, mais n'est pas impliquée dans les frappes. Et Marco Rubio écrit encore que tout est fait pour protéger les forces américaines dans la région. Avant de conclure, l'Iran ne doit pas s'en prendre aux intérêts des États-Unis. Le personnel diplomatique présent dans la région a d'ailleurs été réduit cette semaine, notamment en Irak. Trump réunit son Conseil de sécurité nationale demain matin à la Maison-Blanche. Ce sera en fin d'après-midi, heure de Paris.
Sébastien Paour depuis Washington. Israël, de son côté, affirme qu'elle était obligée d'arrêter le programme nucléaire iranien qui arrivait, selon elle, à un point de non-retour. L'opération, affirme Benjamin Netanyahou, pourrait durer encore quelques jours. Ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France l'affirmait. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération de décapitation. Ce que confirmait sur France Info l'ancien colonel Père de Jong, vice-président de l'Institut Témis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité dans le monde. Écoutez-le.
Il y a 2 sites d'enrichissement en Iran et c'est vrai qu'on sait que les Iraniens étaient à 2 doigts en fait d'avoir le matériau nécessaire pour rentrer dans le domaine du nucléaire militaire. Donc évidemment, on rentre dans un nouveau monde, un monde inconnu, parce que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants, c'est un pays qui est extrêmement important, qui est central globalement au Moyen-Orient. Donc effectivement, on ne voit pas très bien vers quoi on va aller dans les semaines ou dans les heures qui viennent. Les Israéliens ont frappé à la fois des centrales, des sites d'enrichissement et bien évidemment, ils ont frappé l'état-major des gardiens de la Révolution, qui est la structure militaire, comment dire, la plus efficace d'Iran. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de destruction globale de tout ce qui pourrait éventuellement répliquer à cet assaut israélien sur les installations nucléaires iraniennes.
Enfin, l'Iran affirme ce matin n'avoir pas détecté de contamination nucléaire après l'attaque israélienne sur son site clé d'enrichissement d'uranium. On reviendra évidemment sur cette actualité dans nos prochaines éditions.
On passe au dossier du 845 autour des journées européennes de l'archéologie.
Oui, on en parlait tout à l'heure dans la question du jour. L'Institut national des recherches archéologiques préventives, l'INRAP, dont les missions sont menacées, propose justement tout ce week-end de découvrir en France plus de 600 sites archéologiques. Et ce matin, on s'intéresse à l'un d'entre eux, une immense villa gallo-romaine au sud d'Auxerre, dans l'Yonne. Cette propriété, occupée entre les 1er et 4e siècles après Jésus-Christ, est en train d'être mise au jour par les archéologues. Pierre Ropert s'est rendu sur le chantier de fouilles.
Sur ce vaste terrain vague situé à 3 km au sud d'Auxerre, les fondations d'une immense villa gallo-romaine émergent peu à peu du sol.
Et c'est ce qui pourrait correspondre en fait à notre mur d'enclos nord en fait. Notre mur de clôture nord.
Période gauloise, antiquité, Moyen-Âge, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive mettent au jour plusieurs couches d'histoire, s'enthousiasme le président de l'INRAP, Dominique Garcia.
Le terme de villa romaine peut paraître connu de tous. Or, en fin de compte, on fouille rarement des villas en extension. Et aujourd'hui, sur près d'un demi-hectare, est mis au jour une villa dont on connaît la chronologie, peut-être les origines gauloises, son développement au Haut Empire, son agrandissement durant le Bas Empire et sa transformation au Moyen-Âge. Donc on a l'histoire sur la longue durée d'un habitat aristocratique de la période gauloise jusqu'à la période médiévale.
Sur le terrain, les premières fouilles datant de 1966 n'avaient pas permis d'identifier l'importance archéologique de ce lieu, désormais fouillé dans le cadre du chantier lié au futur contournement sud d'Auxerre.
Régulièrement en archéologie préventive et notamment en domaine rural, il ne reste que les fondations.
Alexandre Burgevin, responsable d'opérations à l'INRAP.
La chance que l'on a sur ce chantier, c'est d'avoir à la fois les murs et les sols en élévation, c'est-à-dire qu'on a le début du mur. Donc on peut restituer à la fois le sol de circulation et les murs qui fonctionnent avec. Donc on a déjà tout de suite le rendu des pièces de l'époque ou de l'habitat de l'époque.
Grâce au dégagement commencé au printemps 2024, les archéologues ont désormais découvert une villa gallo-romaine qui s'étend sur plus de 4000 mètres carrés.
Ces villas, elles n'ont pas qu'une vocation d'habitat, elles ont aussi des vocations de reconnaissance sociale. On a la chance d'avoir un jardin, on a la chance d'avoir peut-être une fontaine ou un bâtiment cultuel, on a la chance d'avoir un bassin. Bah, tous ces éléments-là de parure, en fait, sont là pour montrer un peu la puissance financière ou l'importance des résidents. Ce qui double encore le côté très important de la villa, c'est qu'on est également équipé de thermes. Quand on a les moyens, on se fait construire sa propre salle de bain.
Les archéologues cherchent désormais à comprendre ce que cette propriété, probable lieu d'échanges commerciaux ayant appartenu à une famille aisée, voire aristocratique, pouvait bien produire. Alexandre Burgevin.
Il y a un peu de travaux qui sont faits autour du paléo-environnement, autour de l'étude des graines ou des pollens en fonction des milieux de conservation. Ça fait partie des problématiques du chantier, en fait, de récupérer les graines qui ont pu être stockées et de voir quelle a été la production. On est dans une région viticole, on peut peut-être envisager aussi déjà avoir de la culture ou de la production viticole pour l'Antiquité ici.
Les archéologues ont également détecté des traces d'occupation pendant la période gauloise, ainsi qu'un autre bâtiment daté, lui, de l'époque médiévale. Ils espèrent désormais percer tous les mystères de ce domaine antique avant la fin des fouilles prévues en septembre prochain.
Un reportage de Pierre Ropert. Un résumé rapide du temps de ce vendredi. Gros orages prévus cet après-midi sur le nord-ouest et le sud-ouest. Dans ces deux régions, 17 départements sont en vigilance orange aux orages. Ailleurs, grand soleil et température très élevée, toujours comptée de 24 à 35 degrés du nord-ouest au sud-est. Et c'est la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Herner.
Merci beaucoup, Anne Lorchouin.
Les Matins de France Culture. Guillaume Herner.
Como et Saltiel. François, ce matin, vous nous parlez de la revue Estrange qui consacre son dernier numéro à la mémoire d'Internet.
Oui, Guillaume, que c'est bizarre d'appeler sa revue Estrange, une publication semestrielle dédiée au mystère moderne. Je l'ai découverte grâce au mauvais genre de François Angelier, producteur historique de France Culture, qui l'a déposé subrepticement dans ma boîte aux lettres. Et je l'en remercie car ce numéro foisonnant explore sur près de 200 pages les profondeurs d'Internet, cet océan riche en promesses qu'il ne faut pas confondre avec les grandes plateformes qui orientent nos pérégrinations et nous donnent à voir ce qu'elle désire. Non, Estrange chérit les abysses et nous rappelle qu'avant tout Internet est un réseau de réseaux et que de milliers de communautés existent ici ou là et tentent de survivre pour partager leur passion ou vision du monde sans être prisonniers des algorithmes ou soumis à une quelconque économie de l'attention. La revue met en lumière le glitch, un terme qui désigne la défaillance, historiquement une pointe de tension dans la conversion analogique numérique, ou plus communément un bug. Ce déraillement est un art, du moins c'est celui cultivé par Adrien Kane qui fait de l'erreur une matière féconde. Le glitch est une tentative pour saisir l'insaisissable, capter les traces d'un internet où à chaque minute, quantité de sites, d'images, de vidéos sombrent dans l'oubli. Le glitch art n'est pas nouveau, mais l'artiste nous rappelle à ses origines et fondamentaux. L'artiste chercheuse néerlandaise Rosa Meckmann s'intéresse, elle, à la mémoire d'Internet, à ne pas confondre avec les nombreuses traces que nous laissons derrière nous lors de nos navigations. Où sont réellement nos souvenirs? Elle prend l'exemple des réseaux sociaux ou de l'application photo de notre iPhone qui simule l'archivage en nous donnant à voir des photos souvenirs que l'algorithme a piochées de manière mystérieuse. Parfois même, s'ensuit un petit montage avec une musique larmoyante où l'on voit le temps défiler et nos enfants grandir. C'est mignon, mais concrètement, à qui appartiennent ces instants de vie? Plus vraiment à nous, ils sont stockés quelque part dans un data center et soumis à des règles de préservation qui nous échappent. Nous n'avons plus de photos papier et bien souvent la flemme de les abriter dans un disque dur personnel. D'une certaine manière, nous avons délégué nos souvenirs, ils sont un produit et plus une ressource partagée.
Et alors je crois qu'une expérience vous a particulièrement touché.
Oui, on pourrait même dire qu'elle m'a marqué. Elle se nomme « Mémoire, miroir d'Internet ». C'est celle d'un homme qui, depuis des années, stocke des informations importantes de sa vie sur deux supports. Un cloud et son corps, et plus particulièrement sa main, en pratiquant des auto-tatouages. La peau est pour lui le dernier rempart de sauvegarde, difficilement pénétrable à notre insu. Un espace certes limité, mais complexe à voler ou égarer. Pour aller au bout du processus, l'homme a scanné chaque jour la photo de sa main tatouée, une galerie à découvrir sur son cloud via un QR code, telle une porte virtuelle, tatouée, elle, sur sa jambe. Oh que c'est étrange! Et c'est Dante Strange, numéro 4, des pages imprimées qui traverseront le temps à retrouver dès maintenant en librairie.
Effectivement, je vous sens ému, François Saltiel. Lucille, comment vous n'êtes jamais ému?
Jamais.
Vous êtes allé au cinéma et puis...
J'ai pas été ému de ce soir.
C'était devant l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King.
Oui, Life
on peut
of
avoir
Chuck.
Peur, mais ému, bon...
Justement, on peut pas tellement avoir peur. C'est plutôt dans parmi les nouvelles qui font pas peur, celle-là. Elle s'appelle Life of Chuck.
Ça sert à quoi, alors?
Je vais vous le dire. C'est un film de Mike Flanagan à qui, pour le coup, on doit plusieurs adaptations de Stephen King, plutôt, en l'occurrence, des films d'horreur. Alors là, c'est vraiment pas le cas, loin de là, de ce film fantastique à un brin neuneux, mais pas inintéressant, qui aurait même pu probablement être un très grand film, tant le passage du texte à l'image était bourré de possibilités. Et là, s'il manque de finesse, c'est qu'il n'est pas facile de faire un bon film naïf. L'histoire commence dans un monde sur le point de s'éteindre. La Californie se détache du continent américain. Partout, méga-feu et inondations poussent les populations à l'exil. Internet ne fonctionne plus, les parents ne savent plus quoi dire à leurs enfants. Cette apocalypse, on la vit avec un professeur de mathématiques solitaire qui un jour renonce à conduire parmi les failles terrestres jusqu'au collège où il enseignait et part retrouver son ex-femme pour vivre les dernières heures de la planète Terre aux côtés de quelqu'un qu'il aime. Ce début n'a rien d'un film catastrophe, l'apocalypse y est molle, on n'en voit pas grand-chose en dehors des écrans de télévision qu'allume parfois le héros désabusé. Non, ce qui est le plus étrange et même peut-être le plus inquiétant, c'est une publicité qui apparaît partout, à la télé, sur les murs, sur les grands panneaux publicitaires de toute la ville. On y voit un homme tout sourire assis devant un bureau avec ce message « Merci Chuck pour ses 39 années ». Qui est Chuck? Pourquoi, en ces temps de fin du monde, son visage apparaît partout? C'est ce que deux autres chapitres du film vont assez vite nous apprendre, puisqu'on bascule, une fois l'extinction accomplie, dans une sorte de flashback dont le héros est ce fameux Chuck, un comptable à la vie tout à fait normale, même un peu ennuyeuse, qui un jour, entendant une batteuse jouer en pleine rue, a posé par terre son attaché case et s'est mis à danser.
On reconnaît les méandres, les mélanges de la littérature de Stephen King.
Oui, ça peut paraître tout à fait étrange raconté comme ça, mais en fait, les wagons du récit se raccrochent bien vite et dessinent un conte totalement Stephen Kingien avec au cœur cette idée que chacun possède en soi un monde, à moins que le monde ne soit en réalité une pure construction de chacun. En bref,
un substrat philosophico-poétique dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas d'une grande subtilité. Le problème, c'est que Mike Flanagan se saisit du concept comme si c'était du Nietzsche, complètement au premier degré, et tire le conte fantastique du côté d'un récit d'apprentissage un peu plan-plan, dont le héros, ce fameux Chuck, est un petit garçon orphelin qui vit avec ses grands-parents dans une maison dont une pièce est interdite et pour cause, on peut y voir les morts futures. C'est larmoyant, mais c'est parfois un peu prenant, quand notamment le film bascule vers la comédie musicale, mais rien n'est complètement réussi. Hein. L'image est plutôt quelconque, la mise en scène plutôt fade, ben oui, les interprètes plutôt moyens, mais si, au contraire, le film semble compter sur la fable et sa leçon d'humanité pour enchanter les spectateurs, et pourquoi pas, moi j'adore être enchanté, mais ça manque considérablement de grâce, la grâce d'un certain cinéma des années 90 ou 2000, la grâce du cinéma de Spielberg, par exemple, qui aurait probablement réussi, lui, Life of Chuck. Je me suis fait la réflexion pendant toute la projection que pour réaliser un bon film naïf, il fallait un sacré travail, qu'il ne suffisait pas de traiter un récit au premier degré, de mettre un enfant dedans avec des petites lunettes trop mignonnes et quatre notes de piano. En fait, pour faire œuvre naïve, pour embrasser ce qu'il y a de nécessairement grandiloquent et outré dans la naïveté, il ne faut pas être naïf.
Merci beaucoup, Lucille Como, de dégager le champ des invités. Merci à toute l'équipe des matins, Isabelle de Golemin, Marie-Lise de Saint-Salvi, Emma Lichtenstein, Mathilde Tonfourcade, Marguerite Caton, Juliette Deveau, Simon Denis, Hugo Vlamin, Clara Mouret, Félicie Faugère, Alison Vicrobec, Julien Lequet, Élise Le et Jordan Fuentes. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Guillaume Erner.
Et voici Xavier, un autre cours de l'histoire, parce que un jour pousse l'eau.